et noirs, profonds, conservateurs, et ils n'ont pas voté pour eux. Donc, amis opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, faites très attention à cette stratégie du débat public contradictoire suivi d'un référendum, car un débat public contradictoire, ça demande une très grosse préparation, préparation minutieuse, et ça nécessite d'avoir des gens rompus à la joute verbale pendant de longues heures. N'oubliez pas non plus que vos adversaires ne resteront pas les bras croisés en vous regardant, et les sections locales du PS, de l'UMP et des communistes auront une bien meilleure force de frappe que vous. Donc ce que propose le sénateur Dantec n'est pas une mauvaise stratégie, mais c'est une solution qui demande beaucoup de discipline et de ressources. Gardez espoir, restez créatifs et continuez la lutte. Un auditeur breton expatrié au pays des cochons et des jobs à 1 euro de l'heure. Ciao!
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis, avec Christophe Fourel, André Gors, un penseur pour le 21e siècle.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, Christophe Fourel, on se retrouve aujourd'hui avec vous et André Gors, et autour d'un entretien qu'il a donné en 1991 à France Culture, à notre consoeur Marie-France Hazard sur France Culture. Et là, on va aborder la suite de son parcours et la suite de son œuvre et la suite de sa pensée. Inutile de dire que en l'espace d'une heure, même une heure de là-bas, si j'y suis, on n'arrivera pas à épuiser son travail, mais on espère évidemment donner aux AMG et aux auditeurs en général l'envie de le découvrir ou de le redécouvrir. Alors son œuvre, elle est quand même assez compliquée parce qu'il est synonyme de l'écologie politique, mais il a un parcours quand même assez riche qui commence avec l'existentialisme, il devient un ami de Jean-Paul Sartre, il travaille longtemps à la revue Les Temps modernes, après il va rompre avec Sartre, j'y vais à grands pas là, hein. Il va rompre ou du moins se séparer un peu de Sartre, et puis au début des années 70, il va donc est un des cofondateurs ou un des grands penseurs, architectes, comme on voudra, vous allez me dire ce que vous en pensez, de l'écologie politique. Comment vous le présenteriez? Comment vous avez l'habitude de le présenter? Parce que vous avez travaillé beaucoup avec Gors, vous l'avez bien connu, vous travaillez sur lui. Comment vous avez l'habitude de le présenter en quelques mots?
Alors, je crois que les adjectifs que vous avez utilisés sont assez justes. Je crois d'abord que c'est un philosophe autodidacte, et qui, effectivement, est un philosophe du sens à notre existence, du sens de notre société, dans la façon dont elle se construit. Et c'est effectivement quelqu'un qui est un des pères spirituels, pourrait-on dire, de l'écologie politique. Même si, comme on a pu le dire déjà dans la séance précédente, il n'a pas traité directement des problèmes écologiques comme l'effet de serre ou les problèmes de la biodiversité dans son œuvre. Il n'empêche qu'il a beaucoup inspiré les écologistes dans les années 70. Il est venu, il le disait lui-même comme ceci, il est venu à l'écologie politique par la critique de la société de consommation auquel il s'était attaqué, si vous le voulez bien, dès le début des années 60. Et c'est vrai, vous avez raison, André Gors est un auteur qui fait référence, qui est subversif, puisque André Gors, sous son autre pseudonyme, on y reviendra certainement, Michel Bosquet, quand il était journaliste au Nouvel Observateur, a beaucoup traité des questions d'écologie politique et également du nucléaire et de la dangerosité de ce mode de production d'énergie, et dont on voit bien aujourd'hui, bah, finalement, que à certains égards, on peut se dire qu'André Gors n'avait sans doute pas tort.
Alors, on dit André Gors, on a évoqué ses noms multiples, Gerhard Hirsch, Gerhard Horst, c'était ses noms, on a expliqué ça. Vous avez évoqué son pseudo de Michel Bosquet, son nom de journaliste, à l'Express, puis au Nouvel Observateur, qui n'étaient pas forcément les mêmes journaux à l'époque où il y travaillait qu'aujourd'hui, soit dit en passant. Mais il a quand même une histoire d'identité. et on a dit anticapitalisme, on va parler du communisme.